un bonbon sur la langue.
Muriel Gilbert.
Rien n'échappe à son œil de lynx. Bonjour Muriel.
Bonjour Agnès et amis des mots. Bonjour. Aigu, exigu, ambigu. Mais où va donc le tréma ? Aujourd'hui, Muriel, on parle de deux petits points.
Eh oui, deux petits points en effet, mais qui posent question à bien du monde, si j'en juge par les courriers que je reçois à mon adresse langue@rtl.fr. Ce sont les deux points horizontaux qui constituent ce signe diacritique, cet accent, quoi, qu'on appelle le tréma. Tréma est un mot grec qui veut dire assez logiquement, bah, point. Ou même qui désigne même plus précisément un point sur un dé. Le tréma est plutôt rare en français. Larousse nous explique qu'il se met sur les voyelles E, I et U pour indiquer que la voyelle qui précède doit être prononcée séparément. C'est ce qu'on appelle en langage savant une diérèse du grec ancien diairesis, séparation.
C'est joli, hein. Vous avez des exemples ?
Ouais, le dictionnaire donne les exemples de sigu, naïf et capharnaüm, par exemple. Donc, sans tréma, sigu se dirait sig. Naïf se dirait nef et capharnaüm, capharnaüm. Donc son utilité est encore plus flagrante sur un mot comme maïs, qui sans lui ressemblerait comme un frère à la conjonction mais, M-A-I-S. Il est indispensable aussi sur l'onomatopée aïe, qui sans lui donnerait est, aïe, comme le verbe avoir au subjonctif.
Et donc on ne trouve jamais le tréma sur d'autres lettres que E, I et U ?
Très exceptionnellement si, vous savez bien que le français adore les exceptions. On le trouve sur quelques Y de noms propres notamment, comme celui de l'Aïle-et-Rose par exemple, qui sans le tréma se prononcerait l'Aïle-et-Rose.
Et ce tréma cause beaucoup de fautes.
Alors quand il s'agit d'écrire Noël ou Père Noël, personne ne l'oublie sur le E. Je ne trouve jamais de faute non plus à naïf, parce qu'on se rend bien compte que sans tréma on prononcerait nef. Mais le vrai défi, c'est avec les mots qui se terminent en G-U au masculin. Aigu au masculin, A-I-G-U, pas de tréma. C'est le même principe pour ambigu ou exigu, par exemple. Alors, au masculin, juste G-U à la fin. Mais au féminin, ça se corse. Une voix aiguë, une pièce exiguë. On voit bien qu'on ne peut pas se contenter d'ajouter un E final, parce que ça donnerait une voix aigue.
Exactement.
Une pièce exigue. Mais on ne sait jamais où mettre ce fichu tréma.
Oui, on aurait bien envie de le mettre sur le U.
Et oui, mais comme l'explique la définition du Larousse, c'est donc sur le E qu'il se place, puisque le tréma, je le répète, indique que la voyelle qui précède, donc ici le U, doit être prononcée séparément. Alors c'est même ce qui explique l'un des pièges rigolos de l'orthographe française qui veut que le tréma d'ambigu au féminin se mette sur le E, tandis que sur ambiguïté, il se met sur le I. Il évite qu'on prononce ambigue et ambiguïté, voilà. Enfin, ça c'est l'orthographe traditionnelle, mais la réforme de 1990 dont nous parlons régulièrement a établi une tolérance. Vous pouvez désormais mettre votre tréma sur le U si ça vous chante, mais c'est tellement moins rigolo, non ?
Beaucoup moins rigolo, merci beaucoup Muriel Gilbert. Et à demain évidemment, un bonbon sur la langue, une chronique à retrouver sur notre site rtl.fr.